Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Le droit et les élections, le droit de vote. À l'approche des élections de décembre 2023, les candidats affûtent leurs armes. Les électeurs sont sollicités pour voter en faveur de tel ou tel autre candidat. C'est le moment de développer des stratégies pour convaincre son électorat. Des habitudes changent et des confusions naissent autour de certains termes. Une pédagogie sur ces notions semble nécessaire.
Qu'est dit la loi sur les élections et l'affichage des listes des électeurs? Pourquoi voter est un droit et un devoir? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la campagne électorale et avec quelle conduite pour le postulant? Quel système électoral avons-nous? Droit et citoyenneté s'est fait le devoir de décortiquer une thématique électorale à l'horizon des élections de décembre.
Voilà la problématique qu'aborde le magazine de promotion de vos droits et devoirs, coordonné par Jeff Ngoy et co-présenté avec Vanessa Kongolo sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente écoute à tous.
Du droit et les élections. Nous recevons dans un premier temps Dédonné Morimo, expert électoral et ancien de la commission électorale indépendante CEI. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Dédonné Morimo, vous êtes un expert électoral, un ancien de la CEI. Nous allons aborder quelques termes électoraux. Quels sont les nouveaux termes qu'on peut retrouver dans le monde électoral? Les néologismes ayant trait aux élections peuvent être déclinés de quelle façon?
À chaque cycle électoral en République démocratique du Congo, il y a eu des innovations. Rappelez-vous que nous sommes au quatrième cycle électoral et la loi elle-même qui encadre les élections a déjà été visitée pendant plus de cinq fois. C'est dire que à chaque fois, les législateurs apportent du nouveau pour peut-être améliorer le processus. Pour ce qui est de la nouvelle loi en vigueur, je peux noter, par exemple, qu'on parle des dispositifs électroniques de vote en lieu et place de la machine à voter. Bon, c'est du néologisme, parce que tous les Congolais...
Vous, à l'époque de la CEI, on n'a pas connu ça.
Il n'y avait pas de machine à voter en 2005.
Là, c'était manuel, c'était le vote manuel.
C'était le vote manuel. C'est l'expérience des élections de 2006 qui ont permis d'innover, parce que nous sommes retrouvés, par exemple pour la Tchangou, avec un bulletin de plus de 52 pages et qui était difficilement manipulable par les commun des mortels. Nos mamans, les maraîchères et tout ça, ils avaient de la peine à manipuler ces bulletins. Et aussi, imaginez l'isoloir lui-même et surtout les box pour mettre les bulletins. Il fallait en avoir en tout cas des quantités.
C'était toute une gymnastique.
Absolument. C'est donc, ça fait partie de l'innovation. Monsieur l'abbé Apollinaire Maluma, loupé à son âme, avait initié pour améliorer donc le mode de vote.
Donc, outre le vote manuel, la machine à voter, il y a encore quel autre système, quel autre mode de vote qu'on peut avoir?
Il y a aussi le mode électronique lui-même.
Le mode électronique lui-même.
À ce moment-là, il est dématérialisé. Quand vous votez, vous n'avez pas à manipuler du papier. Donc, vous votez sur base d'un dispositif, effectivement, et les résultats partent directement dans les serveurs et affichés automatiquement sur les écrans. Donc, il y a trois modes, les manuels, les semi-manuels,
qui
vont avoir les dispositifs électroniques de vote, parce qu'il y a un bulletin. La loi a prévu même que s'il y a discordance, on doit privilégier les résultats issus du comptage manuel. Mais le vote électronique lui-même, là, il n'y a rien de papier, tout se fait de façon électronique.
Et qu'est-ce qui est plus avantageux, qu'est-ce qui est plus rapide?
Bien sûr,
qui inspire confiance aussi.
Non, ce qui est plus rapide, c'est le vote électronique, parce qu'on a les résultats à temps réel. Mais comme vous le savez, il y a la confiance. la confiance, il vous souviendra que par le passé, même quand quelqu'un devait aller dans l'isoloir, on semblait dire aux gens que son choix qu'il a opéré dans l'isoloir peut être modifié. Et c'est dans le mental du Congolais. Maintenant, imaginez qu'on lui dise que non, il ne va même pas voir le bulletin de la personne qu'il a choisi.
Il ne va pas y croire.
Il ne fait pas confiance.
Donc,
du côté confiance, il faut rester encore au niveau de ce mode mixte. Donc, électronique et matériel.
Et manuel.
Parce qu'on peut compter les bulletins, on peut voir la personne et les bulletins, on le voit. Et c'est plus tard qu'on pourra améliorer avec le système électronique.
Surtout que nous avons affaire à des parties prenantes pour ceux qui ont beaucoup de suspicions.
Beaucoup de suspicions, et vous le savez, comme d'habitude d'ailleurs, les acteurs politiques, au lieu de préparer les élections, ils préparent la contestation.
Voilà.
Et donc il faudrait quand même qu'il y ait un minimum de confiance pour qu'on puisse avancer, et ce n'est pas pour aujourd'hui. Et ça va relever d'une pédagogie plus tard. Et n'oubliez pas un autre élément, c'est qu'on n'a pas de courant partout. Donc doit installer des machines qui doivent transmettre automatiquement les résultats, il faut que nous ayons en tout cas de
l'électricité partout
pour pouvoir aider à réaliser ce travail.
Surtout dans les milieux profonds du pays, là, dans Ambrousse.
Il y a d'un côté la confiance, mais également il y a cette logistique-là.
Cette logistique-là qui complique.
Qui doit accompagner la mise en œuvre et la loi aussi. Évidemment, la loi est déjà réglée parce qu'ils disent où. Semi-électronique ou électronique.
Nous avons quel système électoral?
Les législateurs congolais, je dois dire qu'il y a plusieurs systèmes électoraux à travers le monde. En tout cas, plusieurs familles, mais il y a en tout 4 grandes familles. Mais le législateur congolais a choisi, en tout cas depuis 2005, 2 systèmes électoraux pour les élections en République démocratique du Congo. Pour les élections de 2023, le président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité simple. Concrètement, c'est le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix qui passe. Même si c'est 20%, il est déclaré élu. Dans ce même système majoritaire, pour ce qui est de la députation nationale et provinciale, les circonscriptions à un siège, on applique le système majoritaire, c'est-à-dire c'est le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix qui est déclaré élu. Deuxièmement, le système proportionnel. Pour ce qui est de la députation nationale, provinciale et même des conseillers communaux, municipaux, c'est la proportionnelle à liste ouverte avec application de la règle du plus fort reste. Et là, donc, il faut d'abord qu'on puisse déterminer les quotients dans chaque circonscription pour procéder maintenant à la répartition des sièges.
Et comment on calcule ce quotient-là?
Pour calculer les quotients, il faut prendre le nombre de suffrages valablement exprimés et on divise par le nombre de sièges en compétition dans la circonscription et nous avons un premier quotient. Et la répartition maintenant va s'appliquer sur ce quotient-là. Donc on prend le nombre de voix de chaque liste et on divise par le quotient pour savoir combien de sièges la liste a obtenu, et ainsi de suite jusqu'à vider l'ensemble des sièges en compétition dans la circonscription.
On parle aussi du seuil électoral. Comment on l'apprécie?
Nous avons 2 seuils dans la loi. Il y a d'abord le seuil de recevabilité des listes. Le législateur a fixé à 60% des sièges en compétition. Une liste doit atteindre 60% des sièges en compétition pour être déclarée recevable. Si vous avez moins de 60%, 59 ou 40, vous êtes automatiquement disqualifié. Ça, c'est la première étape. Évidemment, le législateur pensait que avec ce seuil-là, on pourrait réduire le nombre de candidats. Mais curieusement, vous l'avez constaté, que pour 2023, il y a, je crois, autour de 24 ou 25 000 candidats pour la députation nationale.
Plus ou moins de 29
il y a de 45 000 déjà sur les listes provisoires de la CENI pour ce qui est de la députation provinciale. Ça, c'est le premier seuil qu'il faut franchir. Le deuxième seuil, maintenant, c'est le seuil de représentativité. C'est-à-dire, lorsqu'on termine les opérations de vote, la CENI doit publier le nombre de suffrages valablement exprimés au niveau national, pour ce qui est de la députation nationale, et on va maintenant calculer les listes qui ont atteint ce seuil-là, qui doit être de 1% pour ce qui est de la députation nationale, 3% pour la députation provinciale et 10% pour les conseillers communaux. Donc chaque liste doit atteindre soit les 1% pour ce qui est de la députation nationale, 3% pour la députation provinciale et 10% pour les conseillers communaux. Et ce sont seulement les listes qui ont atteint ce seuil-là, de 1%, de 3% ou de 10% qui vont maintenant participer à l'attribution des sièges.
Ah, en 2006, avec la CI.
En 2006, le système n'a pas changé, comme je l'ai dit. Évidemment, c'était pour la présidentielle à deux tours.
Oui, oui.
Mais cette fois-ci, c'est en un seul tour, donc c'est la mort subite. Mais pour ce qui est des seuils, il n'y avait pas de seuil ni de recevabilité, ni de représentativité. Donc, ça fait partie des innovations successives. La dernière en date, c'est l'essai de recevabilité de 60% que le législateur a introduit dans la nouvelle loi électorale.
Qu'est-ce qui détermine le choix d'un système électoral?
Chaque pays a son histoire. Et pour pouvoir choisir un système quelconque, comme c'est le cas de notre pays, c'est un pays post-conflit. Et donc, le législateur a choisit le système proportionnel notamment pour permettre aux petits partis d'être représentés au niveau de l'Assemblée nationale et provinciale. Mais aussi, les attentes par rapport à ces innovations-là n'ont jamais arrivé à satisfaire ceux qui ont, les ont initiés. Je donne le cas. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 960 partis politiques à travers le pays. Et pourtant, avec les innovations d'essai, ça devait réduire. Mais malheureusement, c'est devenu comme un sport national. Chacun se réveille le matin. Évidemment, la loi sur le parti politique aussi, les conditions ne sont pas assez rigoureuses pour réduire le nombre de partis politiques et des regroupements politiques. Mais les réformes sont faites pour essayer d'améliorer un système à chaque cycle électoral.
Et selon vous, qu'est-ce qui peut pousser tout le monde à entrer à faire la politique? Pourquoi tout le monde veut aller vers la politique?
La réponse est vite donnée, Jeff. C'est parce que c'est le métier qui paye mieux et vite. Lorsque on va commencer, on va décider de payer les législateurs moins que les enseignants, moins que toute la classe sociale du pays, vous verrez qu'il y aura très peu de candidats qui vont s'engager dans la politique, dans les élections. C'est parce que là, ça paye vite et bien que tout le monde veut s'engager, veut tenter sa chance. Sinon, comment vous pouvez imaginer qu'un pays puisse avoir plus de 900 partis? Ça ne s'explique pas. Parce qu'on ne peut pas avoir 900 façons de gérer ce pays. Les grandes démocraties, je prends l'Inde par exemple, l'Inde a 900 millions d'électeurs, avec 538 sièges, mais n'ont enregistré que 800 candidats. Vous imaginez? 800 candidats pour un corps électoral de 900 millions. Mais nous n'avons 43 millions d'électeurs, mais nous avons déjà 25 000 candidats à la députation nationale, plus de 45 000 à la députation provinciale. C'est scandaleux.
Et finalement, les autres secteurs vont se vider des gens. Nous allons assister à une injustice sociale. La redistribution du revenu social ne sera plus équitable.
C'est vraiment la responsabilité du législateur. Et ce qui pose problème chez nous, c'est que les législateurs qui initient les réformes taillent les lois sur mesure. Donc, ils ne peuvent pas faire une loi qui va les désavantager. Donc il faut qu'ils se dépassent pour dire on fait la loi pour l'avenir, on fait la loi pour le futur, on ne le fait pas par rapport à nous parce que tout le monde va passer, mais on le fait pour l'intérêt du pays. Mais quand on met les conditions, je vous donne un cas, dans la loi, on dit pour être candidat conseiller municipal ou bourgmestre, il faut avoir 18 ans, n'est-ce pas? Nous savons qu'à 18 ans, en tout cas, très peu ont fini les humanités, mais la loi ajoute qu'il faut avoir un diplôme universitaire, je n'en connais pas, en tout cas par les génies, qui peut avoir un diplôme universitaire à 18 ans, ou avoir une expérience de 5 ans. Comment peut-il avoir une expérience de 5 ans? Déjà, on ne peut pas commencer à travailler en état mineur. Il faut avoir la majorité pour travailler. Voilà. Et ce sont les conditions qui sont dans la loi. Et je pense que les prochaines réformes devront en tenir compte parce que c'est quand même, c'est pas normal qu'on mette ça comme condition dans une loi qui régit le processus électoral dans notre pays. Ça, ce n'est qu'un exemple.
Avec tout ce qu'il y a comme innovation qu'apporte la loi électorale. Et nous recevons Dédoné Mérimo, qui est un expert électoral et un ancien de la CI. Nous sommes à quelques semaines de la campagne électorale. Y a-t-il un code de bonne conduite auquel les gens doivent s'en tenir, ceux qui se lancent dans la compétition? Comment ils doivent se comporter? Quel langage ils doivent tenir? C'est quoi la campagne électorale? Puisqu'il y a toujours une confusion. Quand quelqu'un parle, on dit non, il faisait la campagne électorale précoce.
En termes simples, la campagne électorale, c'est une période fixée par le législateur ou le cadre légal ou réglementaire pendant laquelle un candidat doit se vendre auprès de l'électorat. Il doit se vanter. Pourquoi il veut solliciter le suffrage des électeurs? En termes simples. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il propose? Pourquoi il désire que les électeurs lui accordent les suffrages? En termes simples.
Mais déjà, ils le font.
Ceux qui vont. Malheureusement, vous avez parlé du code. Moi, je vais même au-delà. Il y a la loi qui réglemente ça. La CENI, dans son calendrier publié en novembre 2022, a fixé la campagne, la période de la campagne électorale pour les élections 2023 du 19 novembre au 18 décembre 2023. 30 jours pour le candidat président de la République, les candidats députés nationaux et les candidats députés provinciaux. Il s'est fait, malheureusement, et nous le constatons tous, que tous les candidats sont déjà en pleine campagne, pas même en pré-campagne, mais en pleine campagne. Vous verrez des affiches avec les numéros, des messages, et curieusement, l'organe qui est en charge, j'ai suivi, je crois, un communiqué de CESAC. Bon, assez timide, mais ça n'a pas arrêté. Et on continue, on voit comment les candidats ont continué à inonder les médias, inonder les immeubles, même publics, pour afficher. Pourtant, c'est interdit par la loi. Mais on observe ça et c'est quand même dommage.
Le choix du peuple, c'est notre choix unique. C'est le candidat pour nous en 2023. On voit ça, les voix.
Tout le monde le voit, et à Kinshasa et à travers le pays, au vu et au su de ceux qui doivent réglementer cette période qui est consacré par la loi et les mesures d'accompagnement.
Est-ce que la loi permet à ce que le candidat aille déposer son dossier à la CENI, se faisant accompagner d'une foule, tambour battant?
Voilà ce que dit la loi sur cette question-là, Jeff. C'est que le candidat peut aller déposer lui-même ou par son mandataire. Donc, il peut ne pas aller physiquement, il désigne le mandataire. S'il est indépendant, son mandataire qui est un électeur. Mais si c'est un parti politique, un regroupement, le regroupement ou le parti politique va désigner un mandataire qui va agir au nom du candidat du regroupement, au nom du candidat du parti politique ou alors au nom du candidat indépendant. C'est ce que prévoit la loi, c'est noir sur blanc. Nulle part dans la loi, ni même dans les mesures, on demande que le candidat se fasse accompagner de ses militants. C'est ce que j'ai dit, c'est déjà un peu la campagne. Parce que quand vous mobilisez des centaines, des milliers de gens pour vous accompagner, vous cherchez quoi? Pour que les gens sachent que non, moi j'ai mobilisé 10 000, l'autre 3 000. C'est pendant la campagne que les gens font la démonstration de force, pas avant. Donc c'est un peu tout ce qu'on est en train de dénoncer ici, la campagne précoce. Ce n'est même pas la pré-campagne, c'est vraiment la campagne précoce.
Il y a des sanctions prévues par la loi.
C'est prévu, mais il appartient aux organes qui sont compétents. J'attends personnellement que ces organes-là puissent appliquer la loi parce que les preuves sont là, suffisamment en tout cas, des candidats, plusieurs qui enfreignent aux dispositions de la loi.
Et on tombe même dans des attaques personnelles.
Et tout cela, c'est ce que j'ai dit là, on enfreint la loi. Et pourtant, c'est pendant la période de campagne que tout ça est permis. Vous pouvez vous lancer des boutades et tout ça pendant la campagne, c'est toléré. Mais avant la campagne, c'est des infractions qui sont punissables par la loi.
Nous ne pouvons pas boucler cette thématique ou cette émission sans avoir votre analyse, votre lecture en tant qu'expert électoral sur la marche de ce processus électoral. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à ce processus électoral qui doit être amélioré puisque vous en avez l'expérience. Vous pouvez aussi donner votre contribution là où il y a des failles qu'on puisse corriger.
Merci beaucoup, Jeff. Pour ce qui est de ce processus, il y a quelques failles, en tout cas, qui sont dénoncées déjà depuis le début. D'abord, c'est la mise en place de l'arbitre du processus, un des arbitres. Vous le savez certainement, et c'est connu, la CENI, et c'est ce qui crée cette crise de confiance entre les parties prenantes du processus électoral, parce que les parties prenantes prévues par la loi, la loi prévoit la majorité, l'opposition parlementaire et la société civile pour composer la commission électorale nationale indépendante. Et j'ai entendu et vérifié par des acteurs que certains représentants qui sont à la CENI n'ont pas été désignés formellement par leur structure prévue par la loi.
Oui. Ça c'est déjà on parle du débauchage politique.
Un premier problème. C'est connu et ça crée cette crise de confiance dans cette institution-là qui doit annoncer les résultats et qui organise, qui prend en charge, de par la Constitution, le processus électoral. Deuxième problème sérieux, c'est la constitution du fichier électoral. Pour aller aux élections, il faut avoir la liste des électeurs. Et nous avons constaté que, jusqu'au moment où nous parlons, beaucoup de Congolais ont perdu leur carte. Ça, c'est normal. On peut les remplacer, c'est prévu par la loi. Mais surtout, ils ont des cartes qui ne sont pas lisibles. Et ils sont très nombreux. Et on demande à ces électeurs-là de rentrer aux antennes de la CENI pour aller se faire obtenir les duplicata. C'est bien et c'est facile à dire. Et moi, je donne l'exemple comme ça. Le territoire le plus vaste de la République démocratique du Congo, c'est Bafwasende. Il a plus de 47 000 km². Il y a des habitants de ce territoire qui, toute leur vie, ne sont jamais arrivés au chef-lieu de leur territoire. Et c'est valable pour plusieurs territoires. Et quand vous demandez à un électeur qui est à 100, 200 km d'aller chercher les duplicata au chef-lieu de son territoire, quel intérêt il a d'aller là-bas? Il lui ne voyage pas. Sa carte, il l'utilise seulement pour voter. Et puis, il est occupé par ses activités champêtres et tout. Donc, il n'ira jamais chercher son duplicata. Et par conséquent, très peu d'électeurs qui ont leur carte effacée n'iront pas chercher les duplicata. Et ça aura donc de l'implication sur...
Même ici, même pour avoir ces duplicata-là, c'est tout un problème. C'est toute une corvée pour avoir ces duplicata-là.
Vous m'avez aidé en ajoutant ça parce qu'il faut payer l'argent, il faut prendre beaucoup de temps pour se faire obtenir ces documents et tout ça. Et ça décourage. Et conséquence, tout simplement parce que on a distribué des mauvaises cartes d'électeurs. Il est inconcevable, Jeff, qu'en 2006, demandez, il y a des gens qui ont gardé leurs cartes de 2005, qui sont encore lisibles aujourd'hui, 18 ans après, 2011 et 2018. C'est inexplicable que les cartes de 2023 soit mauvaise que celle d'il y a 18 ans, et la technologie évolue du jour au jour. Et donc, c'est tout ça, malheureusement, qui concourt à ce que tout le monde dénonce, que le processus nécessite vraiment, il est biaisé et qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer
pour permettre. Donc la suspicion.
Exactement. Rappelez-vous également la polémique sur l'audit du fichier électoral, l'audit indépendant, n'est-ce pas? Et tous les acteurs dénoncent, en tout cas, j'entends, que l'audit n'a pas été fait parce qu'on doit associer. C'est prévu dans la loi, quand il y a audit du fichier, il faut faire participer les parties prenantes au processus pour les mettre en confiance. Mais cet exercice n'a pas été fait. C'est ce qui fait que les gens dénoncent et qui réclament à corps à cri qu'on devrait auditer le fichier électoral pour qu'on sache exactement quel est son contenu. Hein? Si c'est 43 millions d'électeurs réellement, ou plus ou moins, si tout le monde a participé à l'exercice, ça les met en confiance. Les faits qui n'ont pas été là, il faut continuer à dénoncer et tout ça. Donc il y a une série de problèmes, en tout cas, qui entourent l'organisation de ces élections. Espérons que ça va nous amener à la paix, au lieu, comme je l'ai dit, de préparer la contestation avant même que les élections ne soient organisées.
Est-ce que l'affichage des résultats, bureau de vote par bureau, ne peut pas inspirer confiance, ne peut pas inspirer la transparence?
Avant d'arriver à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, pas c'est prévu par la loi, ça fait partie des innovations de la loi électorale, la CENI a l'obligation de publier la liste provisoire des électeurs par bureau de vote. Elle doit être connue, publiée et affichée, et même sur son site internet. Et c'est plus tard maintenant, quand les gens iront voter, qu'elle devra publier et afficher plutôt les résultats bureau de vote par bureau de vote.
Et en 2011, il s'est posé un problème des bureaux de vote fictifs. La cartographie électorale physique ne correspondait pas à la cartographie électorale publiée sur le site de la CENI.
C'est après la publication de ces listes que nous saurons si il n'y a pas effectivement aussi des bulletins fictifs. J'ai entendu les gens dénoncer l'existence des bureaux des centres d'inscription fictifs. Les gens les ont dénoncé ça. Nous avons tous suivi aussi qu'il y avait des particuliers qui avaient dans leur véhicule ou dans leur maison les machines, les équipements d'enrôlement. Et ça a été dénoncé et les images ont circulé partout. Et bon, malheureusement, j'ai pas entendu en tout cas des sanctions et pourtant prévues par la loi. Bon, c'est des faiblesses qu'il faudra corriger à l'avenir. Donc nous espérons que les résultats seront publiés bureau de vote par bureau de vote, mais que les listes électorales seront aussi publiées pour permettre à chaque électeur à temps de savoir exactement dans quel bureau de vote ou dans quel centre de vote il va se diriger le 20 décembre 2023.
Thédoné Mérimo, expert électoral, merci de vous être prêté à nos préoccupations.
C'est moi qui vous remercie, Jeff, de m'avoir donné cette opportunité de partager avec la population ses inquiétudes et puis de l'éclairer sur certaines questions en rapport avec les élections. Nous espérons que tous vont se mobiliser pour aller voter le 20 décembre 2023.
Jean-Baptiste Itipo, directeur de communication de la CENI, éclaire notre lanterne sur l'affichage des listes des électeurs et la campagne électorale prématurée.
Jean-Baptiste Itipo, que pensez-vous des déclarations faites par certaines personnes concernant l'affichage des listes des électeurs?
En ce qui concerne l'affichage des listes électorales, si vous lisez, je dis bien attentivement, l'article 6 de la loi électorale, la CENI a affiché les listes électorales. Et je m'en vais pour preuve dans les 12 antennes de la ville province de Kinshasa. Le dernier communiqué de presse de la CENI dit que cet affichage va se faire de manière progressive afin de permettre la consultation des dites listes par les électeurs, les partis politiques, les regroupements politiques ainsi que les candidats. Il s'agit bel et bien des listes provisoires qui sont affichées dans les conditions fixées par la Commission électorale nationale. Vous retrouverez cette disposition au troisième alinéa de l'article 6 de la loi électorale. mon frère, par antenne, ces listes, c'est plus ou moins 7500 pages. 7500 pages. Que le bâtiment de la CENI, où l'on peut afficher 7500 pages pendant un mois, sans que ces listes ne soient détruites par le vent ou par les intempéries. Nous sommes pendant la période de pluie, ou même que ces listes ne fassent l'objet de vandalisme. Voilà pourquoi, au-delà de l'affichage qui est déjà réel au niveau des antennes, la CENI a mis en place un préposé à l'affichage qui dispose également de ces listes. Donc la CENI a fait double et même triple, parce que les mêmes listes, on les retrouve sur le site web de la CENI. Les listes sont affichées et les listes sont détenues également par les préposés à l'affichage. Donc nous pensons que la CENI a fait mieux. Il s'agit là des listes provisoires. Et pourquoi on les affiche? C'est pour permettre à tout électeur, à toute électrice, d'aller les consulter pour voir si son nom est là ou pas. Et si, à tout hasard, le nom n'est pas là, la personne qui n'a pas vu son nom fait des réclamations auprès du préposé à l'affichage, de manière à ce que lorsqu'on va publier les listes définitives, que les réclamations soient prises en compte. Et les listes provisoires sont affichées avec indication du bureau de vote. Que les gens ne confondent pas. Lorsque nous arriverons pendant les votes, nous aurons les listes définitives devant le bureau de vote. Les mêmes listes définitives seront entre les mains de l'assesseur numéro 1 et les mêmes listes définitives seront également entre les mains de l'assesseur numéro 2. Après avoir voté, chaque électeur doit signer à côté de son nom. Auprès de l'assesseur numéro 1, quand vous entrez dans le bureau de vote, il s'assure que cet électeur a été reçu, il coche. Et à la fin du vote, on saura auprès de l'assesseur numéro 1 et de l'assesseur numéro 2 le nombre réel des personnes qui ont voté. Voilà donc, il ne faudrait pas que les gens fassent l'amalgame à ce stade. Ce sont des listes électorales provisoires qui sont bel et bien affichées et que l'on peut également consulter sur le site web de la CENI, www.ceni.cd en minuscule, mais aussi auprès du préposé à l'affichage.
Et qu'en est-il de la campagne électorale précoce qui a déjà commencé, sans qu'on assiste à des sanctions?
La loi électorale interdit toute campagne électorale précoce en dehors de la période légale. L'article 80 de la loi électorale prévoit des sanctions pour quiconque se livre à une campagne électorale précoce en dehors de la période légale. Et ces amendes varient entre 200 000 francs congolais et 2 millions de francs congolais. Maintenant, qui doit faire appliquer la loi? Il y a d'une part, n'est-ce pas, les services publics en ce qui concerne l'affichage, mais la campagne médiatique, il y a le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui, n'est-ce pas, en synergie avec la CENI, peuvent constater qu'il y a une campagne électorale précoce à travers les médias ou à travers l'affichage et peuvent, n'est-ce pas, faire appliquer la loi. Mais d'autre part, il y a des institutions spécialisées qui sont à la recherche des infractions, qui peuvent constater les infractions et, n'est-ce pas, les punir conformément à l'article 80 de la loi électorale. C'est vrai que l'on constate à travers la ville une campagne électorale prématurée qui ne dit même pas son nom. On voit des affiches à gauche, à droite, et donc c'est interdit de par la loi. La campagne électorale dure en principe 30 jours pour l'élection présidentielle, 30 jours pour l'élection des députés nationaux, 30 jours pour l'élection des députés, n'est-ce pas, provinciaux. Juste un petit complément. Récemment d'ailleurs, le CESAC a pris une directive pour interdire toute campagne électorale en dehors de la période légale. Je n'ai pas la référence de cette directive et je pense qu'il y a même des menaces qui ont été faites contre certains médias qui se lanceraient dans cette campagne prématurée, électorale prématurée.
Katsonga fidele wa mulamba Bayende wa mer kapi ne mer baka.
Les droits et les élections, nous recevons à présent le magistrat émérite Nicolas Kedishiba. Il nous parle du droit de vote et des juridictions habilitées à traiter les contentieux électoraux.
Est-ce que l'élection constitue-t-elle un droit et pourquoi?
L'élection constitue un droit. Un droit pourquoi? Parce que tout citoyen a le droit d'élire ceux qui doivent gérer le pays. et tout citoyen a les droits d'être élu. C'est ainsi que, vous voyez, dans notre loi électorale, on a prévu les conditions d'inéligibilité d'un citoyen et les conditions qui empêchent un électeur de participer au vote. Il y a même la déchéance prévue suite à certaines infractions. Mais en réalité, le vote, c'est un droit acquis. On peut même l'appeler un droit de l'homme. Parce que tout le monde a droit à ça. On ne peut pas priver quelqu'un du vote s'il n'a commis aucune infraction.
Donc l'élection, c'est un droit. C'est aussi un devoir.
Oui, c'est une obligation. Parce que quand vous êtes citoyen d'un pays, la démocratie veut dire l'exercice du pouvoir par le peuple, mais par l'intermédiaire de ses représentants, que lui, le peuple, a élu. Alors, vous ne pouvez pas refuser de vous abstenir de procéder à ses devoirs. Parce que, tous citoyens que nous sommes, nous avons des droits et nous avons des obligations. Nous attendons beaucoup de l'État, mais il faut maintenant que nous soyons aussi obligés de désigner des gens qui sont dignes de bien gérer le bien public, ce qu'on appelle la res publica.
Nous parlons du droit de vote. Dans une élection, les acteurs principaux sont les électeurs et les postulants. Quels peuvent être leurs droits et devoirs?
Bien, c'est comme nous avons dit. Vous savez, c'est une occasion pour moi, comme vous me l'a donné, d'inviter le peuple congolais à ne pas suivre des discours partisans, à ne pas suivre ce que les gens disent, mais à sanctionner d'abord ceux qui ont été précédemment votés et à porter le choix, un choix utile sur un homme, une femme qui est capable de répondre aux attentes de la population. Satisfaire les droits sociaux, les droits civiques et politiques, la sécurité de la population et l'intégrité de notre territoire.
Le droit de manifester, le droit de s'exprimer en toute liberté,
oui, mais ça, c'est
son point de vue, ses opinions.
Ça, c'est prévu par la Constitution. Tout citoyen peut donner un point de vue sur tout problème politique. Mais quand on donne ce point de vue, il ne faut pas passer à l'injure. Il ne faut pas passer au tribalisme, à la division. Parce que vous voyez, dans notre pays, nous avons plus de 450 tribus et clans. Mais quand on commence à se séparer, comme j'avais suivi un député national qui disait, non, dans ce gouvernement, on ne trouve pas notre groupement. Est-ce que tous les groupements doivent être compris dans un gouvernement? Ça devient un gouvernement de notre tante et de notre oncle. Mais nous devons quand même savoir que la liberté de tout citoyen s'arrête là où commence celle des autres. Alors, maintenant, vous avez le droit, la liberté de l'expression. Mais cette liberté ne doit pas porter atteinte à l'ordre public et aux intérêts des autres. Nous devons respecter aussi les intérêts des autres et préserver l'ordre public, parce que nous ne devons pas dire n'importe quoi. Même quand nous manifestons, je l'avais dit une fois, vous ordonnez une manifestation, mais on ne l'ordonne pas pour, comme un attrape-nigaud, on fait la manifestation pour accuser le pouvoir. Non, on l'ordonne pour atteindre un but bien déterminé, mais on forme les membres qui vont faire la manifestation et on cherche le moyen de les encadrer pendant la manifestation. Donc vous comprenez que la liberté d'expression, de manifestation, a aussi en contrepartie une obligation pour celui qui l'organise. Parce que vous savez que dans notre pays, on a tendance à pleurnicher. Aujourd'hui, moi, j'appelle tous ces pleurnichards non-politiciens. Parce que nous allons pleurnicher devant qui et pourquoi? Nous devons faire ce qui est bon. Mais nous ne devons pas toujours pleurnicher alors que le droit est là qu'on doit respecter.
Et pourquoi on assiste souvent à des dérapages plutôt qu'à l'unité, hein? Souvent, les élections ont toujours été une occasion de division, des attaques personnelles, des coups durs, des coups bas entre candidats ou entre leurs partisans. Pourquoi assiste-t-on souvent à ces colibés entre les postulants et leurs partisans, plutôt que d'assister à un moment d'unité? Mais c'est la division.
Non, vous savez, chaque fois qu'on organise les élections, on prend aussi un code de bonne conduite. Un code de bonne famille, de bonne conduite pour les politiciens ainsi que pour les électeurs. Mais le plus souvent, il y a toujours les comportements mesquins de certains leaders politiques qui, tout en sachant qu'ils ne sont pas en mesure de gagner, mais ils vont chercher des bêtes noires, chercher à contester. Mais quand il faut contester, il faut avoir des bases juridiques solides, comme on a vu des gens à la Cour constitutionnelle. Je vais vous révéler un secret. Les gens vont à la Cour constitutionnelle pour contester avec des documents ramassés par-ci, par-là. Or, la loi électorale dit que tout document qu'on doit produire devant la juridiction en matière de contentieux électoral doit être sollicité de la CENI, et c'est la CENI qui le délivre sous forme de copie certifiée conforme. Donc, il doit être certifié. Quand vous amenez un document qui n'est pas certifié, on ne peut pas le prendre en considération. Vous avez vu les gens avec des valises, des malles de documents qui ont été tout simplement rejetés par la Cour constitutionnelle. Et moi, comme j'ai enseigné la loi électorale, j'ai aussi siégé dans les contentieux électoraux, j'ai compris que beaucoup de politiciens aiment trop parler sans passer aux actes et sans même connaître la loi. Les politiciens, les postulants, ainsi que les électeurs, doivent chercher à connaître la loi électorale. Comme ça, quand il y a des contestations, on le fait en bonne et due forme et ça ne créera pas de troubles.
Vous avez enseigné la loi électorale, vous avez aussi participé à l'arbitrage des contentieux.
J'ai tranché.
Quelles sont les institutions qui sont habilitées à statuer, à traiter des contentieux électoraux?
Vous savez, aujourd'hui, il y a les tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs, la cour administrative.
Les cours d'appel administratives qui n'existent pas.
Elles existent.
Les cours d'appel
administratives. Voilà. Vous posez une très bonne question. Ce sont nos cours d'appel actuels, parce que dans chaque cour d'appel, il y a une section administrative et une section judiciaire. En attendant qu'on crée les juridictions administratives subalternes au Conseil d'État, ce sont les cours d'appel actuels qui jouent le rôle de cours administratives. Alors, à part le cours d'appel administratif, il y a aussi le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. Voilà les juridictions qui s'occupent des problèmes du contentieux.
Mais la Cour de cassation ne s'occupe pas du contentieux.
Non.
Il y a des cours d'appel qui invalident. Est-ce qu'une juridiction a le pouvoir d'invalider un député, de valider le mandat d'un député?
Oui.
Ou bien il revient à l'organe
délibérant? Non. La Cour d'appel interroge les partis. Parce qu'il y a une partie qui vient contester les résultats. Elle interroge les requérants ainsi que la partie dont l'élection est contestée. Et la CENI intervient. C'est là où aussi je pose un problème. Je n'ai jamais été d'accord qu'on appelle la CENI en qualité d'expert. Parce que c'est la CENI qui a posé l'acte. Et l'acte contre lequel on se plaint, c'est le travail fait, un acte administratif accompli par la CENI. On peut appeler certains experts pour éclairer la cour, experts de la CENI, comme on peut appeler des experts extérieurs et neutres. Mais en réalité, qui a posé l'acte? C'est la CENI. Alors maintenant, quand la cour d'appel est saisie d'un contentieux, d'une requête en contestation des résultats, elle va appeler toutes les parties. Chacune des parties va dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Celle qui s'est plaint, parce que dans sa requête, elle doit mettre tous ces éléments.
Quels sont les éléments qu'il faut apporter? On peut parler de votre expérience au Conseil d'État.
Oui,
vous avez
d'abord pas
des
au Conseil d'État, mais d'abord à la cour d'appel administrative.
Et quels sont les éléments qu'il faut apporter lorsqu'on conteste une élection ou bien une candidature?
On fait d'abord la requête pour dire qu'est-ce qu'on reproche à la décision rendue.
La procédure prévoit d'abord la requête.
La requête. À la requête, si le député, le requérant lui-même, va introduire la requête, il va lui-même. Si il a envoyé, il a remis la requête à un avocat ou à un mandataire, il doit lui remettre une procuration spéciale. Alors, à côté de la procuration spéciale, il donne les motifs de sa requête ainsi que toutes les pièces constituant les moyens de preuve soutenant sa requête. Alors, tous ces documents doivent être déposés en originaux. Et à côté de ça, il annexe l'inventaire des pièces qui ont été jointes à sa requête. Et le greffier enrôle, il envoie au ministère public et à l'autre partie dont l'élection est contestée. Alors, toutes ces parties auront la possibilité de venir, le requérant défendant sa requête et celui dont l'élection est contestée, établissant que non réellement, il a été voté en bonne et due forme. Alors là, voilà pourquoi je dis que c'est à tort qu'on considère la CENI comme expert. Parce que la CENI, chaque fois que j'ai reçu la CENI devant moi, elle s'est mise à défendre le travail fait par elle. Elle n'est pas venue pour éclairer. Et chaque fois, elle demande valider l'élection de telle, parce que c'était fait dans de bonnes conditions. Alors maintenant, quand la Cour a pris l'affaire en délibéré, quand elle se prononce, elle peut constater que la requête est irrécevable parce qu'on n'a pas respecté certaines conditions de forme. Et si elle est recevable, elle va dire si la requête est fondée ou si elle n'est pas fondée. Alors, en ce moment-là, si la requête n'est pas fondée, on déboute le requérant. Mais si la requête est fondée, on lui fait droit. Parce qu'il a demandé qu'on invalide son adversaire, on va l'invalider. Et après avoir pris la décision, s'il n'y a pas d'autre voie de recours, elle communique, elle notifie la décision à toutes les parties, ainsi qu'à la CENI. Et si les gens voient un appel, eh bien on transmettra tout le dossier à la juridiction supérieure, qui va aussi faire le même travail. Alors maintenant, la Cour a rendu une décision qui s'impose à tous, mais c'est la CENI qui, en fin de compte, va pouvoir, parce qu'on lui envoie, elle constate qu'effectivement, on a invalidé ou on a maintenu.
On a déjà finalisé le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Nous attendons la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle après le contentieux des candidatures à la Cour constitutionnelle. À ce niveau, qui est habilité à contester la candidature?
Ça commence par la CENI. Au bureau de traitement de réception des candidatures qu'on appelle les BTRC. C'est ce bureau-là qui, après avoir reçu le dossier des candidats, président de la République, va vérifier si on a respecté la procédure, si toutes les pièces réclamées quant à ceux ont été déposées en bonne et due forme dans le dossier. Je dois ajouter quelque chose. Vous savez, la CENI, en matière de campagne, même des infractions que les gens peuvent commettre, déborder dans le langage, chercher à voter pour les autres ou influencer les électeurs pour dans les bureaux de vote, la CENI ne travaille pas seule. La CENI travaille en concertation avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Et ces conseils jouent, peuvent faire appliquer des sanctions qui sont prévues dans la loi électorale et même traduire en justice des récalcitrants et ceux qui se seront rendus coupables des infractions lors des opérations de vote. Donc, il y a aussi le CESAT, un grand rôle pour assurer l'équité.
Droit et citoyenneté qui vous a entretenu sur quelques notions électorales, dont le droit et les élections, le droit de vote, le système électoral, la campagne électorale,
l'arbitrage des contentieux.
Ce magazine est donc terminé. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.